Docteur Reynaud, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Donc, je le disais, c'était peut-être pas clair. Donc, 5 ans d'espérance de vie amoindrie pour les gens qui viennent de groupes plus défavorisés, 15 années à peu près de vie en moins grande qualité. Ce sont des chiffres qui sont toujours réels, ça?
Oui, quelquefois même un peu pire. Pour les hommes, c'est 6 ans de différence d'espérance de vie entre le premier quintile de revenus et le dernier, c'est-à-dire les 20 % les plus riches et les 20 % les plus pauvres. Il y a des différences aussi d'espérance de vie entre les quartiers qui sont importantes, quelquefois encore plus importantes.
Et on le voit ici à Montréal.
Et à Montréal, on le voit, malheureusement, on le constate, nous, depuis 1998. Il y a des quartiers de Montréal qui ont l'espérance de vie du Costa Rica, puis il y en a d'autres qui ont l'espérance de vie de la Suède. Alors, on a à l'intérieur même de notre ville, à 1 kilomètre de distance, des différences majeures d'espérance de vie.
Je le disais dans l'introduction, on pense manque de ressources matérielles, financières, c'est plus complexe que ça. Les causes, elles viennent d'où?
En fait, il ne faut pas sous-estimer l'importance du manque de ressources financières. Hein. Dans un colloque du British Medical Journal, quelqu'un avait dit « Il n'y a rien qui vous donne autant d'opportunités pour votre santé que de l'argent dans vos poches. » Puis quand on y pense, avec de l'argent, on s'achète une bonne alimentation, on s'achète la possibilité d'habiter un quartier qui est loin des sources de pollution, on s'achète des vacances, on s'achète...
Des vêtements chauds.
oui, on s'achète ce qu'il nous faut. C'est sûr que les soins de santé sont théoriquement d'accès universel. On voit que cet accès universel-là s'est effrité aussi ces dernières années. Donc, l'argent, ça compte. Il y a plus que l'argent, cependant. Il y a le fait que les gens qui sont pauvres ont tendance, évidemment, à aller louer des logements qui sont dans des quartiers qui sont plus défavorisés. Donc, on a une concentration de pauvreté dans certains quartiers avec un déficit d'accès à plusieurs ressources. Je pense aux quartiers où il y a peu ou pas d'épicerie avec des fruits et légumes parce que, bon, ça ne vaut pas la peine. Il y a plein de gens
défavorisés.
Des déserts alimentaires pour certains, en tout cas, pour des populations. Il y a aussi toute la question de la honte que vivent les gens défavorisés. On est encore, malheureusement, dans une culture qui valorise la réussite professionnelle et financière, ce qui est très bien, mais qui dévalorise les gens qui n'ont pas de succès, qui n'ont pas eu de chance dans la vie, qui leur fait sentir qu'ils sont des gens de moindre importance, que ce ne sont pas des citoyens qui comptent, que leurs besoins ne sont pas nécessairement légitimes. Et ça, c'est difficile à vivre psychologiquement.
Ça amène une stigmatisation. Est-ce qu'on pourrait aussi évaluer le facteur de stress? C'est-à-dire si l'on court après l'argent, si le revenu nous inquiète, de vivre constamment avec ce stress qui devient chronique peut avoir également un impact sur notre santé.
Vous avez tellement raison. Alors, le fait de manquer d'argent, ça introduit... Vous savez, on dit que le cerveau humain est prêt à faire face à des situations de stress aigu qui se résolvent, comme quand on était des chasseurs, on courait après notre proie, on l'attrapait, là, on était dans un taux d'adrénaline très élevé, et puis après, la situation se résolvait doucement. Mais là, le cerveau n'est pas prêt à prendre le stress chronique, d'avoir tout le temps des stéroïdes, de l'adrénaline en dose continue. Et ça peut amener des conséquences, notamment sur la dépression, sur le manque d'énergie et aussi une susceptibilité plus grande aux infections. Puis on sait aussi une susceptibilité plus grande aux maladies chroniques. Alors, on s'aperçoit, par exemple, que chez les populations défavorisées, à obésité égale, il y a beaucoup plus de diabète. Ce qui est étonnant parce qu'on fait ordinairement un lien pour le diabète de type 2 entre l'obésité et puis la survenue de ce problème-là. Mais chez les gens défavorisés, il y a des facteurs de risque supplémentaires pour les maladies chroniques.
Est-ce qu'il y a une notion aussi d'éducation? C'est-à-dire qu'on pourrait penser que lorsqu'on a plus de moyens financiers, on a plus accès aux études, à des études supérieures, et que ça pourrait avoir un impact sur notre santé également.
Je ne suis pas sûre que les études supérieures sont tellement reliées, quoique oui, jusqu'à un certain point, mais pas à ce point. Ce qui est important, c'est l'éducation avant l'école.
Ah ouais, OK.
Oui, c'est le développement des tout-petits. Et c'est là que beaucoup de choses se dessinent. Et moi, je suis très préoccupée actuellement du retrait d'intérêt du gouvernement québécois dans notre réseau de centres de petite enfance. Mm-hmm. Parce que ce réseau-là avait fait ses preuves pour diminuer, annihiler les inégalités sociales de développement pour enfants. Chez les enfants pauvres qui fréquentaient les CPE, on voyait qu'ils arrivaient à l'école en aussi bonne forme intellectuelle que les enfants plus nantis. Et les études de Richard Tremblay l'ont déjà montré, on peut prédire malheureusement à 5 ans le parcours scolaire d'un enfant. On sait qu'un garçon de milieu défavorisé qui ne va pas bien à 5 ans a beaucoup plus de chances de décrocher au secondaire. Donc, c'est des choses qui se préviennent, mais très, très tôt dans l'enfance. Mm-hmm. Pour ce qui est des études supérieures, c'est sûr que si on n'a pas réussi son secondaire, on a peu de chances d'y accéder. Mm-hmm. Mais le déterminant premier se passe vraiment dans les toutes premières années de vie. Et c'est pas étonnant, c'est à ce moment-là que le cerveau se développe. C'est à ce moment-là qu'on fait le plus d'apprentissage. Ces apprentissages-là vont rentabiliser tous les investissements qu'on va faire en éducation par la suite. Mm-hmm. Si on a des enfants qui arrivent à l'école mieux préparés, ils vont mieux réussir, ça va moins demander d'efforts des professeurs, moins de psychoéducateurs, orthopédagogues, etc., pour les entourer. Donc, c'est garant d'un meilleur succès.
Je pose un petit peu cette question-là parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, tout de même, notre gouvernement, les ministères font des efforts en ce qui a trait à des campagnes de sensibilisation, on le voit en ce moment, pour la santé mentale, mais bon, également pour une saine alimentation, la cessation du tabagisme, par exemple. Est-ce que ces campagnes-là ont moins d'effet chez des gens qui ont peut-être un revenu plus faible? Est-ce qu'on peut voir l'écart peut-être ou l'impact?
Oui. Il n'y a pas suffisamment d'études à mon goût, mais il y en a quand même quelques-unes qui montrent que les campagnes générales n'ont presque pas d'impact sur les populations défavorisées. Il y a plusieurs raisons à ça. Vous en avez évoqué une. Quand on est à lutter pour sa survie au quotidien, on a peu de disponibilité mentale pour d'autres préoccupations de prévention à long terme. Mais il y a aussi le fait que ce qu'on représente souvent, c'est des gens de la classe moyenne qui ont accès à différentes choses. Alors, on voit des gens qui se promènent au marché pour acheter des fruits ou légumes, c'est ça, qui vont au théâtre, qui font du vélo dans des environnements idylliques. Et ça, c'est très difficile pour certaines personnes de s'identifier. Il y a d'autres facteurs aussi. À Montréal, il ne faut pas oublier qu'on est une terre d'accueil. Mm-hmm. De plusieurs réfugiés et immigrants et que, bon, les campagnes dans les deux langues officielles ne les rejoignent pas toujours aussi. Ouais. Il y a des questions là, d'accessibilité, ne serait-ce que linguistique. Alors, avec les campagnes générales, c'est pas sûr qu'on réussit à rejoindre ceux qui auraient le plus besoin d'être rejoints. Mm-hmm. D'autant plus que ces campagnes-là visent à sensibiliser les gens pour qu'ils adoptent des meilleurs comportements de santé. Mais l'adoption des bons comportements est plutôt tributaire des environnements dans lesquels on vit. Mm-hmm. Alors, c'est bien beau et des ressources qu'on a. Alors, moi, je peux bien dire à quelqu'un qui vient de voir son loyer augmenter de manger plus de fruits et légumes, mais lui est confronté au fait qu'il doit couper dans ses dépenses alimentaires et que les fruits, les légumes, le poisson, l'huile d'olive, que j'aimerais bien qu'ils prennent en quantité, bien, c'est justement des choses qu'il va devoir éliminer de son alimentation pour des aliments qui sont plus obésogènes, qui sont moins bons pour la santé.
Au même titre que le sport. Faire du sport, c'est rarement gratuit. Il faut soit s'acheter une bonne paire de chaussures ou encore des accessoires. Donc, il n'est pas vrai que c'est accessible à tous, là.
Les jeunes de milieux défavorisés à Montréal, dans le milieu urbain, marchent beaucoup. Mm-hmm. Ça, c'est le bon côté. Il y a les enfants, cependant. J'ai vu des choses assez regrettables. Par exemple, dans, dans des écoles où on demandait que les enfants aient des chaussures de sport spécifiques pour la période d'éducation physique et où on laissait les enfants qui ne les avaient pas
de côté.
Et ça, c'est extrêmement dommage. Et c'est pour ça que je parle des environnements favorables. Il faudrait prévoir. C'est sûr que les familles pauvres n'ont pas l'argent d'acheter 2-3 paires de chaussures à un enfant qui doit de toute façon qui grandit puis qui doit les changer à tous les X mois. Donc, il y aurait moyen de créer là, à l'intérieur des écoles non-discrimination. Imaginez ce que ces enfants-là vivent aussi, d'être laissés à part. On a vu ça dernièrement aussi là, autour des services de garde post-scolaires où on a vu des enfants dont les parents n'étaient pas capables de payer pour les activités, être relégués dans des locaux pas intéressants pour la période en question. Alors, il y a moyen de faire attention à nos enfants. Là. C'est tellement important pour faire en sorte qu'ils puissent avoir accès, autant que les autres, aux activités physiques de différents ordres.
Et que leur développement soit maximal.
Oui.
Hier, Marie-France Reynaud, je recevais Yvan Gauthier, lui, PDG de la Fondation du Grand Montréal, sur le bilan Signe-Vito 2015, qui témoigne de la santé des citoyens de la grande région métropolitaine. Et les chiffres sont là, assez révélateurs. Donc, 19 % des familles de la grande région de Montréal disposent d'un faible revenu, 25 % sur l'île de Montréal, 145 000 personnes utilisent des banques alimentaires. Il y a également les chiffres en ce qui a trait à la violence familiale et conjugale qui sont extrêmement élevés. Maintenant que l'on sait les chiffres, et je sais que vous êtes quelqu'un d'optimisme, vous vous intéressez aux possibilités avant tout, on fait quoi maintenant? Maintenant que les chiffres sont là, on les connaît, on s'attaque à quoi en premier?
Il y a tellement de choses à faire. C'est peut-être pour ça que je suis optimiste, parce que ce n'est pas des situations désespérées. Le niveau de pauvreté dans une société et des problèmes sociaux qui viennent avec ce taux-là, c'est quelque chose qu'on détermine. Hein? C'est un choix de société. Il y a des sociétés qui ont la même économie, le même revenu par habitant, qui ont mis en place des politiques pour avoir très peu de pauvres. Il y en a d'autres qui ont des écarts incroyables et beaucoup de pauvres. Mm-hmm. Et moi, je m'inspire beaucoup des sociétés qui sont un peu plus égalitaires et qui deviennent, à cause de ça aussi, des sociétés bien développées, bien compétitives économiquement, avec des enfants qui réussissent à l'école. Ça devient un cliché de dire qu'on vit dans une économie du savoir. Et les sociétés, par exemple, je pense aux sociétés du nord de l'Europe, ont en Finlande, le taux de décrochage de 1 % là. Alors, vous imaginez la force pour une société d'investir dans ses tout-petits avant qu'ils entrent à l'école et aussi rendus à l'école dans un service qui les accompagne là, jusqu'à la réussite scolaire. À Montréal, ce qu'on pourrait faire, il y a tellement de choses. On a un problème de logement à Montréal. On a beaucoup de logements insalubres, des logements avec des moisissures et tout ça. On a ça dans
des
nos
écoles aussi,
dans nos écoles pas mal. C'est des défauts d'entretien souvent pendant des années. Et puis, on a peu de logements sociaux. Le gouvernement fédéral, depuis 1994, désinvestit dans les programmes de logements sociaux, ce qui fait qu'il y a une liste d'attente de 25 000 personnes pour les HLM à Montréal. Et on sait que quand les gens ont accès à un HLM, ils payent 25 % de leurs revenus au maximum, ce qui leur laisse de l'argent disponible pour leurs autres besoins de santé, au premier chef l'alimentation, mais aussi les antibiotiques pour les enfants qui auraient des infections, etc. Ouais. Alors, 25 000 sur la liste d'attente, ils s'en libèrent à peu près 2 000 par année. Vous voyez que, et c'est pour des cas d'urgence tout à fait légitimes, c'est extrêmement bien géré, la liste d'attente des HLM, mais il n'y a pas de disponibilité. Il faut vraiment investir dans plusieurs types de logements, du logement HLM, des appartements supervisés pour des gens qui ont des problèmes de santé mentale, par exemple. Il faut investir dans les coopératives pour des gens qui sont un peu plus fortunés puis qui sont capables quand même de prendre en charge là, l'administration d'un complexe d'habitation. Il y a plusieurs choses à faire en habitation. Et ça ferait une grosse différence sur le revenu des ménages, sur leur qualité de vie, sur la salubrité de leur logement, donc les problèmes d'asthme, les problèmes respiratoires, les problèmes d'otite chez les enfants. Mm-hmm. Bon, ça, c'est une chose. investir dans le transport en commun. Il y a des quartiers où c'est pas facile de sortir. Je pense à Saint-Michel, par exemple, qui est mal desservi dans certaines parties du quartier. Si on veut que les gens aient se former, si on veut qu'ils se trouvent du travail, c'est souvent des gens qui n'ont pas de voiture. C'est pas, puis on ne souhaite pas qu'il y ait des voitures. On souhaite qu'à Montréal, on souhaite que le moins de personnes prennent leur voiture.
Le plus de transport actif.
Le plus de transport actif, le plus de transport en commun. Alors ça aussi, le transport en commun, on peut investir là-dedans, puis ça va profiter surtout. En premier, ça va profiter à tout le monde, mais les plus chanceux sont ceux qui ne sont pas capables de s'offrir d'autres types de transports, qui pourront avoir accès à beaucoup d'opportunités pour se développer. Alors, investir dans les tout-petits, investir dans une ville qui est plus humaine, investir dans l'habitation. Et c'est, je dis investissement, ce n'est pas des dépenses, parce qu'on y perd beaucoup comme société à avoir des gens pauvres.
Oui.
Ça nous appauvrit, ça nous appauvrit tout le monde.
Ben oui.
Et c'est clair, on fait des études. Un de mes amis, Henry Milner, a fait des études de comparaison entre plusieurs pays. Et par exemple, dans les pays scandinaves, les gens qui n'ont pas beaucoup d'éducation de scolarité, ils sont quand même plus savants autour de leur société, sont plus capables de faire des choix
et de contribuer.
Et de contribuer que des Américains qui sont plus scolarisés. Oui. Alors, il y a un effet levier pour tout le monde.
Et nous, on le comprend. On souhaiterait que ça se passe également du côté du gouvernement, évidemment. Mais à vous entendre, Dr. Renaud, ce que je retiens, c'est qu'il y a beaucoup de possibilités. Et ben, vous nous en avez énuméré tout plein, donc on saura les retenir. Je rappelle, vous êtes co-auteur du livre « Le bon sens à la Scandinave, politique et inégalité sociale de la santé » et également chef du département de santé publique et médecine préventive du CHUM, également directrice générale du Centre de recherche Léa Robach sur les inégalités sociales. Ça a été un plaisir de vous parler aujourd'hui.
Un plaisir pour moi aussi.